Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Culture sans frontières dans le cadre du 13e festival du film français qui se déroule à Prague et dans sept autres villes de République tchèque. Le film Potiche de François Ozon a été présenté en avant-première tchèque lors de la soirée d'inauguration de jeudi. Dans les rôles titres, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Lucchini, Judith Godrèche, Karine Viard et Jérémy Régnier. Potiche, ou l'histoire de l'émancipation d'une femme rangée en une femme d'affaires qui finira en politique. Potiche est résolument un manifeste féministe. Tiré à l'origine d'une pièce de théâtre, j'ai commencé par demander à François Ozon comment s'était passée l'adaptation au cinéma.
Quand j'ai découvert la pièce, j'ai trouvé que c'était un rôle de femme absolument incroyable, qui était très, très fort, amusant, émouvant aussi, et j'ai eu tout de suite envie de le faire en film, et j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment j'allais l'adapter. Est-ce que je le mettais de nos jours? Est-ce que je le laissais dans les années 80? Voilà, je me suis posé toutes ces questions, et le déclic pour l'adaptation, c'était la dernière campagne présidentielle en France qui a opposé Sarkozy et Ségolène Royal, et où j'ai trouvé qu'il y a eu un vent de misogynie et de machisme incroyable. Donc j'ai relu un peu la pièce à l'aune de ça. Et donc je l'ai adapté en ayant un peu cette dernière campagne en tête. Et plutôt que de le mettre aujourd'hui pour que ce soit trop, j'allais dire presque trop réaliste et presque ça corresponde trop à la réalité, j'ai décidé de le mettre dans les années 70 parce que les années 70 c'est une période qui ressemble à aujourd'hui. C'est aussi une période de crise. C'est Giscard, c'est un président de droite. Il y a beaucoup de chômage, il y a des séquestrations de patrons, il y a une période de vraiment de crise. Et donc je me suis dit peut-être ça va être un moyen pour moi de parler d'aujourd'hui de manière indirecte. Et donc j'ai adapté la pièce à cette époque, et le gros travail que j'ai fait en fait dans la pièce, bon, j'ai beaucoup aéré, coupé, et surtout c'est la dernière partie du film qui n'existait pas dans la pièce, puisque la pièce se terminait, Robert Pujol revenait dans l'usine et constatait que sa femme avait pris le pouvoir, et moi j'ai eu l'idée qu'il y ait plus ou moins un troisième acte avec Suzanne Pujol qui se lance dans la politique, voilà, qui était une manière de rendre ça plus contemporain d'une certaine manière et parler encore plus de la condition de la femme et presque de faire un film féministe du coup.
C'est un manifeste féministe, hein. Enfin, ça c'est clair je pense. Sur les années 70 justement, alors évidemment le fait d'avoir choisi de l'adapter dans les années 70 vous a permis visiblement d'avoir une stylisation géniale. On a l'impression que vous êtes vraiment amusé à refaire ces années 70 et 70. Moi j'avais l'impression par moment en regardant ce film de me retrouver dans un film américain, mais les films américains avec ses grosses voitures.
Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu retrouver les années 70 de mon enfance, celles que je les ai vécues donc avec des yeux d'enfant. Avec des coiffures trop grosses, avec trop de cheveux, avec
plein
aussi
de
toutes les influences, oui, avec toutes les influences de l'époque. Donc c'est vrai que des séries télé, j'ai pensé au personnage de Farrah Fawcett dans Drôle de Dame pour la coiffure de Judith Godrèche. J'ai pensé à Jacques Demy. Bon, ça c'est plus les années 60 par rapport à l'usine de parapluies. Enfin bon, il y avait plein de références comme ça que j'ai eu envie de. J'ai pas essayé de faire un film réaliste. Je trouve ce qui est intéressant quand on fait un film historique, c'est de partir de la réalité, voir quels sont les documents et après choisir ce qui nous intéresse et styliser au maximum pour que ça soit vraiment dans le ton de la comédie et qu'effectivement qu'il y ait un côté ludique par rapport à la reconstitution.
Finalement, c'était une manière un petit peu aussi de garder l'aspect théâtral.
Oui, peut-être aussi, parce que moi j'aime beaucoup la théâtralité au cinéma. Je sais qu'il y a des cinéastes qui recherchent tout le temps le réalisme. Pour moi, c'est important d'assumer que c'est un spectacle, que ce n'est pas la réalité, que c'est une recréation. Et je pense que le plaisir du spectateur vient aussi de ça, de se dire que c'est une recréation des choses et qu'il y a, quelque chose de fabriqué.
C'est l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, en tout cas la campagne qu'il a opposée à Ségolène Royal aussi, qui vous a inspiré. C'est évident dans le film. Alors, il y a plein de références. Évidemment, le fameux casse-toi pauvre con. Il y a aussi, j'avais aussi vu travailler plus pour gagner plus. Finalement, vous jonglez à chaque fois, vous faites des allers-retours constants entre aujourd'hui et...
Oui, ce qui est intéressant, c'est que ces anachronismes de dialogue, en fait, rendent complètement dans les dialogues de l'époque. C'est-à-dire que pour des étrangers, par exemple, quand ils vont entendre, j'allais dire Sarkozy, Lucchini, dire travailler plus pour gagner plus, ils vont pas se poser la question parce qu'ils connaissent pas. Donc en fait, je pense que dans 10 ans en France aussi, il y aura pas ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'attendais pas en France que ça fasse autant de bruit, ces deux petites phrases que j'ai récupérées, qui sont un espèce de clin d'œil. Mais je pensais pas que les gens allaient autant l'interpréter et donner du sens à ça. Pour moi, c'était juste un jeu, parce que ce sont des phrases qui sont rentrées dans le langage courant. Les gamins à l'école, quand ils se tapent dessus à la récréation, ils disent « casse-toi, pauvre con ». Voilà, parce que l'exemple vient du plus haut du président de la République. Mais je pensais pas en fait qu'on en parlerait autant.
Mais il y a aussi finalement même la référence, alors puisque c'est un manifeste féministe, aussi même à Ségolène Royal à la fin, elle porte une veste blanche finalement, Catherine
alors
Deneuve.
Alors ça, on n'y a pas du tout pensé. Quand elle dit aussi « je veux être votre maman », on n'y a pas du tout pensé, c'était dans la pièce. Alors elle ne le disait pas aux électeurs, elle le disait aux ouvriers. C'est juste un dialogue que j'ai déplacé, mais c'est quelque chose aussi qui existait.
C'est intéressant finalement que ça ressorte.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi au cinéma, c'est qu'à un moment le film vous échappe, les gens l'interprètent et à des moments c'est un peu effrayant parce qu'on se dit mais dis donc ils ont vu des choses que j'ai jamais vues moi dans le film. Mais c'est ça en même temps qui est amusant quand on rencontre les spectateurs, de voir leur interprétation et comment ils se sont projetés dans le film.
Alors justement, les derniers chiffres, c'est 1 million déjà d'entrées.
1 500 000
même déjà en deux semaines. Vous pensez justement que le film tombe à une période
C'est-à-dire qu'on
propice,
était très gâtés,
parce que
on
finalement,
était très gâtés,
c'est comédie.
Il y a eu beaucoup de grèves. Il y a eu beaucoup de grèves dernièrement avec les retraites en France. Donc le film est tombé juste après que les grèves soient finies. Donc les gens ont pu aller au cinéma. Et je pense qu'effectivement, le succès du film est en partie, vient en partie de la grisaille et la morose sociale qu'il y a en ce moment en France. Et que les gens ont envie de rire, de s'amuser, d'être détendus, tout en riant de sujets qui les concernent directement. Parce que la place de la femme aujourd'hui dans la société française, il y a toujours beaucoup de luttes à faire, que ce soit sur les salaires, sur les retraites, même quand on voit certaines personnes qui veulent remettre en cause des choses comme l'IVG ou des choses comme ça. Et puis il y a la France et puis il y a le monde entier. Quand on voit la position de la femme au Moyen-Orient ou dans certains pays d'Europe.
Hein.
Voilà, dans certains pays d'Europe. Donc en fait, ça a été ça la grande surprise par rapport au film quand on a commencé à le présenter à l'étranger, notamment au Festival de Venise, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était pas une histoire franco-française, c'est qu'il y avait un thème universel qui était l'humiliation de la femme et la position de la femme, et que l'émancipation de la femme, ça pouvait parler à tout le monde, même si c'est dans un contexte typiquement français.
Bon, vous avez un casting incroyable. Catherine Deneuve et Gérard Depardieu ensemble au cinéma, c'est quand même un sacré morceau. Puis après, Fabrice Lucchini, évidemment, Judith Godrèche, Jérémy Régnier. Sur finalement ces deux monstres sacrés du cinéma, les avoir les réunir ensemble, c'était un peu un rêve
pour
aussi.
Pour moi, c'était un rêve, oui, en tant que réalisateur, de réunir Catherine et Gérard, qui sont deux acteurs français que j'adore et qui représentent vraiment le cinéma français depuis 30 ans. Quoi. Ils ont déjà fait 6 films ensemble, là c'est le 7e. Il y avait un plaisir énorme de les voir ensemble, parce qu'il y a une espèce de chimie qui fonctionne vraiment très bien. Et puis je me suis rendu compte en fait en tournant la scène du Badaboum où ils dansent tous les deux dans la boîte de nuit, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre presque, quelque chose d'intime avec nous français, spectateurs français, c'est-à-dire comme on les a vus vieillir pendant 30 ans, c'est comme si on voyait des gens de la famille. Et il y a quelque chose, oui, de... Voilà, de touchant et d'émouvant de les voir vieillir devant nous et faire comme s'ils avaient toujours 20 ans et ils dansent en boîte de nuit.
Et puis ils embrassent aussi finalement.
Ah oui, il y a un baiser, évidemment. Il faut toujours un baiser dans ces cas-là.
Voilà, et après François Ozon, on passe à l'actrice Judith Godrèche, également présente à Prague. En seulement 2 semaines d'exploitation en France, le film remporte déjà un succès assez inattendu. On l'écoute.
Ah bah à Paris, on m'en parle beaucoup, beaucoup en fait, parce qu'il y a déjà plus d'un million de gens qui ont été voir le film, 1,5 million, et donc du coup, les gens m'en parlent beaucoup dans la rue et les gens sont super contents, quoi. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un film qui rend vraiment les gens enthousiastes, enfin, et qui les met de bonne humeur, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mélange de réjouissance, ils se sentent concernés, ils ont le sentiment parfois que ça leur rappelle des souvenirs, enfin. Mais voilà. Puis alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est un film qui plaît aussi aux enfants ou en tout cas aux jeunes adolescents. Parce que j'ai des amis de mon fils qui a 11 ans qui ont été voir le film, enfin voilà. Donc c'est très mais c'est rare qu'un film plaise à la fois autant au public et aux critiques en fait, et c'est vrai que c'est assez phénoménal, quoi, le succès à la fois critique et public.
Vous pensez puisque vous dites que c'est un film qui me met de bonne humeur, vous pensez que d'une certaine façon ça tombe à un moment où finalement la France ou les Français ou le public français en a besoin un petit peu?
Je pense qu'on en a toujours besoin, de toute façon, des films qui mettent de bonne humeur. Mais oui, de toute façon, il se trouve qu'en France, les comédies sont les films aujourd'hui les plus faciles à monter, qui se montent le plus facilement financièrement, quoi. Et c'est vrai que les comédies marchent mieux en règle générale que les films. Enfin d'ailleurs non, je dis des bêtises parce que Des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois, c'est un énorme succès. Voilà, non, je pense que je trouve que c'est un film qui met de bonne humeur parce qu'il y a une espèce de quand voilà, il y a des films dont on sort ému, nostalgique, etc. Et ce film-là, on en sort avec une envie de vivre. Je trouve que c'est un film qui donne envie de vivre sa vie, en tout cas, et de trouver d'ailleurs sa voie. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très
proactif.
Oui, oui, et puis sur la liberté féminine, sur l'émancipation.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu, juste de manière succincte, quel est votre rôle dans le film ?
Moi, je joue le rôle de la fille donc de Catherine Deneuve, la fille donc de Suzanne Pujol, qui est jouée par Catherine Deneuve. Et en fait, mon personnage au début du film se veut un peu donneuse de leçons. Voilà, elle se pense très libre, elle croit qu'elle est en avance sur son époque. Enfin, voilà, elle donne un peu des leçons à sa mère en la traitant de potiche. C'est moi, voilà, qui lui dit au début du film, mais moi, j'aimerais pas devenir comme toi, une potiche. Et en fait, on se rend compte que mon personnage est beaucoup plus coincé et enfermé justement dans sa vie de couple, alors qu'elle est insatisfaite, malheureuse, etc., et qu'elle est pas du tout ni dans une émancipation, ni dans une démarche. On a le sentiment qu'elle va jamais s'en sortir, quoi. Donc voilà, c'est assez drôle. En fait, c'est un peu, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que c'est moi qui donne des leçons au départ et qui me croit très avant-gardiste. Et en fait, je suis extrêmement
potiche,
vieux jeu, potiche, ouais.
Finalement, c'est peut-être le rôle que vous jouez qui est la vraie potiche du film, finalement.
En tout cas, à la fin du film, ouais, je trouve que vraiment, en effet, on peut se dire ça, ouais.
C'est un film donc sur l'émancipation aussi. C'est très féministe. En tout cas, moi, j'ai senti ça un peu comme une sorte de manifeste pro-féministe. C'est ça qui vous a séduit, par exemple, dans le film, la raison pour laquelle vous êtes allée dans ce projet ?
Non, mais moi, je trouve d'ailleurs que ça se sent encore plus, évidemment, une fois que ce film est incarné, je m'en suis encore plus rendu compte en voyant le film qu'avant de l'avoir tourné, je l'avais lu, mais je m'en suis vraiment rendu compte en voyant le film à quel point c'était un manifeste féministe d'une certaine façon. Non, c'est pas pour ça que j'ai accepté le film du tout. Hein. Je pense qu'on refuse pas de bosser avec Ozon. C'est un réalisateur avec qui tout le monde a envie de tourner, je pense. Enfin, donc voilà, moi, c'est plus pour les metteurs en scène que je fais les films que pour les scénarios, même si. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais suivre un metteur en scène que j'aime sans scénario et je pourrais pas aller sur un scénario d'un metteur en scène que j'aime pas, alors que j'aime le scénario. Voilà. Donc c'est vraiment pour les metteurs en scène que je fais les films.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans la façon de diriger de François Ozon ?
Ben, c'est surtout dans son cinéma et dans ses choix. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une très grande liberté. D'ailleurs, c'est aussi, je pense, pour ça qu'il aime raconter et parler de femmes qui s'émancipent. Hein, parce qu'il est lui-même. Il a une façon d'aborder son cinéma et le cinéma avec beaucoup de liberté et d'insolence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passe d'univers complètement extrêmement différent, qui a pas un style attitré, vous voyez, enfin, qui n'est pas dans une espèce de ligne éditoriale avec des films qui se suivent
et se ressemblent.
Voilà. Hein. Alors même si il a évidemment une marque de fabrique et qu'il a voilà, je trouve que de passer de Sous le sable à Potiche,
en passant par Le Refuge,
voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un univers très voilà.
C'était l'actrice française Judith Godrèche ainsi que le réalisateur François Ozon. Tous deux étaient présents à la 13e édition du Festival du film français qui s'achèvera mercredi 1er décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Évidemment, vous pouvez retrouver ces deux interviews sur le web au www.radio.cz. À bientôt. Bon vent. Ahoy.